Bonjour à tous et à toutes. Je vous envoie l'audio qui se réfère aux découvertes et critiques du CSR. Alors, la première chose à observer, c'est que le document est une référence. Donc, comme le nom dit, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Un document qui a été fait par l'Union européenne en 2001. Et après, il y a eu un document complémentaire précisant quelques notions du cadre. Alors, la première chose à dire, c'est que la notion, disons, qui apparaît tout au début du document est la notion des tâches. Et dans cette diapositive, on fait la différence entre tâches et tâches communicatives. Alors, les tâches communicatives, selon cet auteur, sont définies toujours par un verbe de communication lié à une compétence, soit orale, soit écrite. Alors, on pourrait dire rédiger un article, écrire un texte, un reportage, annoncer une publicité, etc. Et elles sont construites autour des cinq activités langagières: compréhension écrite, compréhension orale, interaction, production écrite et production orale. Et elles sont toujours au service de l'accomplissement de la tâche. Alors, on pourrait avoir cet exemple d'une tâche: organiser un circuit touristique à Paris. A priori, il s'agit bien d'une tâche au sens actionnel du terme, puisque le verbe utilisé est un verbe d'action. Pourtant, cette même tâche peut déboucher sur deux approches différentes. L'approche communicative. Tu étudieras les documents que je te donne à lire, à écouter, à regarder, et tu me feras une proposition de circuit. Dans ce cas, l'apprenant va accumuler les maximums de connaissances sur Paris et il va apprendre à faire une présentation orale et faire sa proposition de circuit. L'objectif de la tâche, c'est que l'apprenant acquiert le maximum de connaissances sur Paris, qu'il sache s'exprimer à l'oral. Alors là, c'est un objectif du type communicatif. Dans l'approche communicationnelle, on va détailler un peu plus ce qu'il faut faire. Alors on va dire: tu étudieras les documents que je te donne à lire, à écouter, à regarder. Tu devras garder à l'esprit qu'il s'agit d'un circuit de 3 jours pour des adolescents, que les adolescents n'ont pas beaucoup d'argent de poche. Alors, ces deux informations sont fondamentales pour diriger un peu les activités que le groupe d'étudiants devra faire. C'est-à-dire, toute activité communicationnelle, elle part d'un contexte, elle part d'un objectif, elle part d'un public cible et des conditions, des informations qu'on donne à ce propos. Alors, l'objectif de la tâche, c'est que l'apprenant s'informe sur Paris en faisant le choix d'éléments pertinents par rapport aux contraintes. Il prend en compte qu'il s'agit de 3 jours, que le public est des adolescents et que les adolescents n'ont pas beaucoup d'argent de poche. Et évidemment que les circuits proposés conviennent à ce type de public. Alors, l'objectif est un objectif actionnel, c'est-à-dire il faut que les circuits proposés conviennent aux adolescents qui ne passent que 3 jours à Paris et qui n'ont pas beaucoup d'argent. On peut observer que que là, la différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, c'est obtenir des informations pour faire une activité orale, sans prendre en compte d'autres éléments qui pourraient spécifier et particulariser le contexte. Dans le deuxième cas, le fait d'avoir plus de détails sur l'objectif de la tâche, le public et d'autres informations liées au profil des ados est pris en compte. Alors, la tâche, donc, c'est toute action que l'auteur se représente pour parvenir à un résultat donné en fonction d'un problème à résoudre, d'une obligation à remplir, d'un but qu'on s'est fixé. Alors, on peut avoir des tâches non langagières, comme celle-là, organiser un circuit, ne détermine pas tout de suite des actions langagières. Mais la tâche langagière, qui est qu'on peut faire apparaître à partir de l'énoncé du contexte, le public, l'objectif, nous mène à discuter des itinéraires possibles. Et là, on peut préparer en tant qu'enseignant une série d'activités langagières. Alors, construire une séquence dans la perspective actionnelle, c'est donc penser à l'ensemble des compétences, des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent à l'apprenant d'agir. Il faut prendre en compte le contexte, donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent être listés, reliés à la situation de communication, propre à la personne, extérieure à elle, dans laquelle s'inscrivent les actes de communication. Et évidemment, choisir des supports, des documents qui vont permettre au groupe de obtenir des informations, de les sélectionner, d'envisager des produits, quel itinéraire à faire, etc. Alors, construire cette séquence dans la perspective actionnelle permet à l'apprenant d'agir beaucoup plus dans l'organisation, dans la résolution, disons, de sa situation problème, et de devenir ce que le document, le CSR, appelle des acteurs sociaux. La stratégie que l'enseignant peut proposer aux élèves, c'est voir quelles sont toutes les activités, exercices, tout un agencement organisé qui leur permettra d'accomplir la tâche jusqu'à son but final, dont l'exemple d'organiser un circuit à Paris, de présenter plusieurs possibilités pour répondre aux objectifs du public. Alors, la tâche est ainsi définie comme toute visée actionnelle que l'acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d'un problème à résoudre, d'une obligation à remplir, d'un but qu'on s'est fixé. Alors, on peut se poser la question, quelles sont les différences entre tâches, activités et exercices? Alors, la tâche, elle apparaît comme une activité complexe, qui est toujours contextualisée et qui débouche sur plusieurs propositions. L'exercice, au contraire, est une activité simple et décontextualisée, dont le résultat est prévisible et la réponse unique. Ce sont les fameux exercices structuraux, les exercices de grammaire, etc. Et l'activité, elle peut prévoir des mini-tâches, comme on pourrait dire, des discussions, des sélections d'informations, des négociations sur quel type d'itinéraire sera proposé et sera le plus juste au groupe d'adolescents. Et tout cela, la tâche englobe, disons, toutes ces, soit l'exercice, soit les activités. Pour réaliser une tâche de type débat, par exemple, dont la complexité est très importante, il faut que les élèves puissent mettre en œuvre des compétences linguistiques, pragmatiques, socioculturelles. Toutes les compétences à la fois, en même temps, mobiliser toutes ces compétences. Et pour ce faire, ils doivent être nourris par un input qui peut considérer dans des exercices de compréhension, de production, y compris des exercices fermés. Alors, dans les documents CECR et les documents complémentaires, on a quelques définitions qui nous montrent un peu la perspective qu'on peut adopter quand on prépare nos classes, quand on a des activités à faire avec nos étudiants. J'ai sélectionné deux et après c'est à vous d'en faire d'autres parce que là c'est facile, la méthodologie est la même là. Donc il y a quelques thèmes qui sont des thèmes clés, des sujets clés dans les documents. Et le sujet du plurilinguisme et multilinguisme, par exemple, c'est quelque chose d'important à envisager vis-à-vis la mondialisation, le profil des apprenants qui, normalement, ont des compétences en plusieurs langues, etc. Alors, ce que vous devez faire est le suivant. Vous cherchez dans les documents de 2001 et dans les autres documents complémentaires, la même définition du mot pour voir quels sont les changements que les documents complémentaires ont apportés et comment est-ce que vous-même, vous pouvez avoir cette notion plus concrète et plus théorique, disons, de ces éléments. Alors, la première chose qu'on peut identifié dans ce terme plurilinguisme et multilinguisme, c'est en rapport avec notre expérience en tant qu'élève ici au Brésil. On disait qu'avant, autrefois, il fallait faire 8 ans d'une langue pour passer à une autre. Et comme ça, on faisait suivre les apprentissages les unes après les autres d'une manière très linéaire. Aujourd'hui, si on parle des compétences plurilingues, on peut nous demander quelles sont nos connaissances en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, en français, qui peuvent varier selon la compréhension écrite, la compréhension orale, la production orale et la production écrite. Donc cette différence est la plus importante, c'est-à-dire le multilinguisme, il ne permet pas d'envisager les langues en même temps. Il faut étudier l'une et après l'autre. Si vous lisez cette citation, on va voir que la compétence plurilingue, c'est toute expérience des langues dans lesquelles les langues sont en corrélation et interagissent. Dans des situations différentes, un locuteur peut faire appel avec souplesse aux différentes parties de cette compétence et on peut identifier quels sont les savoirs, les connaissances qu'il a dans plusieurs langues en même temps. Dans les documents complémentaires, les plurilinguismes s'appuient sur les compétences sociolinguistiques et pragmatiques préexistantes. C'est-à-dire, On se demande dans mon parcours scolaire et académique quelles sont les connaissances que j'ai en plusieurs langues. Installe une meilleure perception de ce qui est spécifique, ce qui est plus général, et une conscience métalinguistique, interlinguistique. Et c'est de nature à identifier, à affiner les connaissances sur le savoir apprendre, ainsi que la capacité à entrer en relation avec d'autres personnes et des nouvelles situations. Donc là, c'est très important de prendre en compte ces aspects. Alors, la compétence plurilingue implique la capacité à utiliser un répertoire interdépendant, inégal, plurilinguistique. On fait réfléchir sur les compétences en langue, au pluriel, comme une espèce de biographie linguistique, où il y a plusieurs niveaux de compétences dans toutes les langues qu'on parle. On fait appel à sa connaissance des différentes langues pour comprendre un texte. On reconnaît les mots sous une forme nouvelle, mais appartenant à un stock international commun. On peut médier des conversations entre les individus. On peut parler dans notre langue et comprendre l'autre dans sa langue. C'est l'approche intercompréhensive, etc. La deuxième notion que je voudrais mentionner ici, c'est l'échelle de compétences. À quoi ça sert? Avoir le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. La définition classique, une échelle des compétences, c'est un référentiel pour qualifier le niveau de quelqu'un, quelle que soit la langue européenne dont il est question. Autrement dit, une échelle universelle définissant des niveaux de compétences dans une langue. Mais ce référentiel prend en compte les spécificités des contextes ou des besoins d'apprentissage. Là, c'est une question importante dans laquelle, à partir de laquelle plusieurs didacticiens ont discuté depuis des années, se demandant si on peut partir d'une échelle universelle ou sinon si on voit des bénéfices, des limites, mais on peut envisager d'autres choses. Alors, que disent les documents? Dans les documents de 2001, l'échelle du cadre commun de référence devait être hors contexte afin de prendre en compte les résultats généralisables. Donc cela se relie à l'idée d'universel. Pourtant, les descripteurs d'une échelle commune de référence doivent en même temps être pertinents par rapport au contexte, rattachables à chacun des contextes pertinents et transférables dans ces contextes. Donc il y a cette possibilité de à la fois comprendre qu'il s'agit d'un référentiel universel qu'on peut adapter aux différents contextes. Alors, le nombre des niveaux adoptés devrait pouvoir refléter la progression des différents secteurs. Là, c'est utile de regarder l'échelle de compétences pour identifier jusqu'où on va. Le nombre d'heures qui correspond à un niveau A1, c'est utile de savoir. Il s'agit de 60 heures de cours, on atteint le niveau A1. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos élèves s'ils nous demandent, s'ils nous posent cette question? Donc là, c'est intéressant de regarder attentivement cette échelle. Dans les documents complémentaires, on dit qu'on a besoin des niveaux pour organiser l'apprentissage, pour avoir des traces, des progrès, et répondre à des questions. Quel est votre niveau en français? Ou quelles compétences devrions-nous exiger des candidats? Évidemment, cela dépend du contexte. Alors, c'est la chose qu'ils disent dans ces documents complémentaires, qu'il s'agit de recommandations et non des prescriptions. Ça, c'est très important à faire attention pour ne pas prendre le document au pied de la lettre, mais de surtout l'avoir comme référence et savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on dit échelle des compétences. Alors, l'exercice que je vous propose, c'est de prendre les documents et chercher quelques mots-là. Approche actionnelle, compétence à communiquer langagièrement, savoir-être, savoir-faire. Donc, c'est juste feuilleter les documents, repérer les citations pour en parler après. Cela, c'est la manière de connaître les documents qui sont là sur Moodle d'une manière plus souple et non pas très fatigante. Voilà, c'est tout. Merci.